Jean-Baptiste Lecuy, vous êtes professeur de théologie à Lille et vous venez d'écrire un dernier livre qui s'appelle « Quand Dieu habite en l'homme ». Alors, on a envie de vous poser cette question, Jean-Baptiste Lecuy. Où habite Dieu ? Où habite-t-il dans l'homme ?
C'est une question très intéressante et qui me passionne. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que Dieu habite partout d'une certaine manière, puisqu'il est le créateur de toutes choses, donc il est présent dans tout l'univers, il est présent dans les choses et aussi en tout être humain. D'ailleurs, des auteurs spirituels tellement importants comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix soulignent beaucoup ça. Même les personnes qui ont peur que Dieu soit loin d'elles, même parce qu'elles se sentent par exemple loin de Dieu ou qu'elles ont l'impression que leur vie est un peu ratée, elles peuvent s'appuyer là-dessus. Dieu est présent de toute façon parce qu'il est leur créateur, il est présent en elles.
Intellectuellement, certains le savent que Dieu est présent partout, mais ils n'y ont pas accès. Comment est-ce qu'on y a accès ?
Une chose qui est importante de dire, c'est que certes Dieu est présent partout, mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour un être humain de se dire « il est présent en moi comme il est présent dans un caillou ou dans un animal ?» Peut-être que ce que les gens cherchent, c'est une présence plus intérieure, un peu comme quand on aime quelqu'un, d'une certaine manière. Cette personne, elle est présente en nous.
Elle
habite
vivante.
En nous, elle est vivante, voilà, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre affectivité. Alors là, le Nouveau Testament, à la foi en Jésus-Christ, nous promet que Dieu vient d'une manière spéciale habiter dans le cœur de l'homme, de celui qui est ouvert à l'amour, d'une certaine manière. Peut-être pas qu'une personne qui croit explicitement en Dieu, mais quand elle a le cœur ouvert à l'amour, alors Dieu est présent en elle d'une manière spéciale. Et c'est ça, dans ce livre, que j'ai essayé d'aborder. Comment comprendre que Dieu vient d'une manière spéciale en nous ? Où est-ce qu'il vient ? Puisqu'il était déjà là,
voilà,
d'une certaine
exactement.
Manière.
Exactement. Alors, où est-ce qu'il vient ?
Alors, pour ça, il y a un peu deux manières de répondre. Il y a la manière peut-être la plus concrète et la plus immédiate, qui est celle de la Bible, qui est d'employer des images. On est comme un temple pour Dieu, donc on peut se représenter Dieu comme un souffle, comme l'esprit, hein, qui habite en nous comme dans un temple, comme une respiration intérieure. Ou alors, on va dire qu'il habite en notre cœur, par exemple. Hein. Mais ce sont des images, et quand on réfléchit un petit peu, puis qu'on se dit, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais comment aller plus loin ? Là commencent certaines petites difficultés.
Alors, quelles sont ces difficultés ?
Alors, une manière assez simple quand même de répondre à la question, c'est de faire comme dans la tradition, par exemple comme un saint Thomas d'Aquin qui disait que Dieu est présent en nous un peu comme ce que nous expérimentons quand nous aimons quelqu'un. Donc, quand nous aimons quelqu'un, cette personne fait partie de nous d'une certaine manière, habite en notre cœur, ou quand nous pensons à cette personne, elle vient en nous. Eh bien, pareil, Dieu, il viendrait habiter en nous. Alors, je vais dire la formule de Thomas, comme le connu dans le connaissant.
Alors, est-ce que ça veut dire Dieu viendrait habiter en moi à partir du moment où j'y pense ?
Quelque chose comme ça. Et Dieu, alors, pas simplement que j'y pense, mais aussi que je l'aime. Comme le connu dans le connaissant et comme l'aimé dans l'aimant. Alors là, il y a une petite difficulté tout de même, c'est qu'on comprend bien intuitivement, hein, spontanément.
Oui, à partir de l'amitié.
Dire, voilà, que c'est à partir de l'amitié ou de l'amour, ce que ça peut vouloir dire. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est nous qui rendons Dieu présent. Puisqu'il faut le connaître et il faut l'aimer.
Exactement.
On a l'impression que c'est nous qui provoquons la présence de Dieu. Alors que, dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui vient vers nous. Et puis, nous, on l'accueille ou non. Voilà.
Je vais prendre une image un petit peu simple, peut-être, mais vous allez me dire ce qu'elle vaut. Un peu comme les tapis roulants que nous sont proposés dans les métros. On a le choix de prendre le tapis roulant pour aller plus vite ou bien on a le choix de marcher à pied. Finalement, on peut monter dans ce tapis roulant, c'est-à-dire se rendre présent à cette présence qui est déjà là.
Sauf que là, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, connaître et aimer Dieu, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut décider tout seul dans son coin. Même si on s'en rend pas forcément compte, c'est Dieu qui nous fait ce don de pouvoir le connaître et de pouvoir l'aimer.
Alors, comment est-ce qu'il nous fait ce don ?
Je crois que s'il faut éviter de se mettre à la place de Dieu et d'imaginer quelqu'un qui fait des cadeaux, etc. Il faut plutôt partir de la réalité. La réalité, c'est que à certains moments où certaines personnes aiment et connaissent Dieu. Et dans la foi, on va dire, eh bien, en fait, ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais comment il l'a fait pour me le donner ? On peut pas le savoir, en fait, parce qu'on se mettrait en quelque sorte à la place de Dieu.
C'est un peu l'expérience des grands saints ou des grands convertis qui savent qu'ils sont rencontrés, mais ils savent pas comment.
Oui, d'une certaine manière, on peut
vous
dire ça.
Vous pouvez nous donner un exemple de quand vous dites ça ? Vous avez des exemples
si,
en
je pense par exemple à Sainte Thérèse d'Avila qui, pendant des années, essayait d'une certaine manière d'avoir une vie plus donnée à Dieu et elle butait toujours sur son impuissance, sur des difficultés. Elle a fait l'expérience qui a été bouleversante pour elle que, peut-être pas en un instant, mais en quelques jours, elle a reçu la possibilité de se donner plus radicalement à Dieu. Ou l'exemple typique, c'est saint Paul aussi, par exemple, qui fait l'expérience que tout vient gratuitement de Dieu, ce qu'on appelle la grâce, enfin, tout vient de la grâce de Dieu. Mais alors, quand on dit Dieu est présent en nous de cette façon-là, comme le connu dans le connaissant ou l'aimé dans l'aimant, on dit un aspect du mystère, mais ce qui peut être intéressant et qui peut être parlant aussi pour les gens aujourd'hui, c'est de dire un autre aspect du mystère donc, que j'ai essayé de développer dans ce livre, quand Dieu habite en l'homme, ça part de l'expérience suivante, c'est que par exemple, dans la paternité, quand un père, par exemple, reconnaît un enfant, d'une certaine manière, biologiquement, ce n'est pas toujours certain qu'il est le père. Il n'y a pas de certitude absolue puisqu'il n'est pas sorti de son ventre, donc il y a une question qui se pose. En revanche, c'est lui, le père, qui choisit ou non de reconnaître cet enfant, de le traiter comme son fils, sa fille. Et ça, il va lui dire non seulement par des paroles, mais aussi par toute sa vie, par tous ses actes. Et donc, on voit qu'être père, c'est pas simplement considérer de l'extérieur quelqu'un comme son fils ou sa fille, mais c'est se donner à lui comme père, par toute sa vie, par toute sa manière d'être. Donc on voit que, par exemple, dans cette expérience-là, ou aussi dans l'amour entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre, par une parole, par un oui et par toute la vie, dans ces situations-là, on voit que quelqu'un qui prend l'initiative de se donner à un autre dans sa parole. Alors si on arrive à comprendre que le fils ou la fille, lui aussi, il a à accueillir cette parole qui vient du père, et que cette parole, elle pénètre en lui, elle vient le constituer comme fils, le structurer comme fils, si je peux oser ce mot. Alors peut-être que là, ça nous donne aussi une approche, une intuition pour comprendre comment Dieu se donne à nous. Parce que lui aussi, il est père. Lui aussi, il nous dit une parole d'adoption, de reconnaissance. Et par cette parole, en fait, cette parole, c'est son fils, c'est Jésus, hein, cette parole qu'il nous dit. En nous la donnant, d'une certaine manière, il ne reste pas extérieur à nous, parce que cette parole, elle peut pénétrer en nous. Donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on peut, non pas comprendre, mais approcher ce mystère en disant, mais finalement, Dieu, il vient habiter en nous comme quelqu'un qui se dit par sa parole, qui se dit totalement par sa parole, et une parole qui habite en nous. Donc pour répondre à la question de départ, je dirais que, où Dieu habite-t-il en nous? Eh bien, il habite dans ce que j'appellerais, je vais expliquer ensuite, mais notre espace personnel de langage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un espace qui n'est pas simplement le cœur ou l'affectivité, mais qui est fait par le langage, par toutes les paroles qu'on a reçues, qui ont fait que on parle français ou italien ou une autre langue, qui fait que on sait qu'on est le fils ou la fille d'un tel et d'une telle, qu'on a des frères, des sœurs, qu'il y a des choses qui sont interdites et d'autres qui sont belles, qui sont bonnes. Tout ça, ça fait partie de nous et on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça fait que tout notre intérieur, il est comme un espace de langage, un espace de parole. Et je pense que ça peut être éclairant de se dire, dans cet espace intérieur où j'ai tout mon monde, toutes mes paroles qui me constituent, Dieu aussi, il dit une parole.
Et puis, dans cet espace intérieur de parole, il y a les paroles de ceux qui nous ont aimés, il y a les paroles de ceux qui ont voulu un petit peu de temps en temps nous dire des paroles négatives. Et cet espace de parole n'est pas exclusif, c'est un espace inclusif qui accueille constamment.
Oui, en fait, c'est un espace qu'on n'a pas construit nous-mêmes et qui s'est construit dans l'interrelation, dans les relations mutuelles avec d'autres personnes. Hein. Et donc, en fait, la parole, elle est en nous, les paroles reçues, mais nous aussi, on est dans la parole. On est porté, on est mis au monde d'une certaine manière par toutes ces paroles qu'on a reçues. Donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est pas simplement que nous sommes dans un monde de paroles, mais que ce monde de paroles, du coup, il fait partie de nous et que il nous fait une intériorité, on peut dire ce mot.
Exactement.
Mais l'intériorité, pas simplement affective au sens, moi, mais une affectivité qui est nourri de paroles, pas simplement de mots, hein, mais de paroles qui sont aussi des gestes, des attentions, etc.
Alors justement, vous parlez des gestes. Je crois aussi que vous êtes très sensible à l'aspect corporel, qui est aussi l'aspect du désir. Y a-t-il un désir d'être habité par Dieu? Y a-t-il un désir aussi qui s'incarne, qui prend corps dans notre humanité?
Je pense que si on se pose cette question-là, c'est parce qu'on se dit un Dieu qui ne serait pas désirable, c'est pas un Dieu intéressant, c'est pas un vrai Dieu. Mais en même temps, si on réfléchit bien, on dit mais un Dieu qui serait désirable au sens où il correspondrait exactement à ce que je désire, il ne serait pas non plus vraiment Dieu. Parce que je pourrais me dire, mais finalement, je crois en Dieu parce que ça m'arrange. C'est difficile de répondre tout de suite à la question, est-ce qu'on désire Dieu ou non? Je crois que tout le monde pourrait être d'accord pour dire qu'il y a chez les êtres humains, un désir, faut-il dire du bonheur, mais en tout cas un désir de la joie, un désir de la vie.
De la plénitude.
De la plénitude. Parce que quand on dit désir de bonheur, on voit aussi qu'il y a des humanités très blessées dans lesquelles on peut avoir l'impression, à la limite, que les personnes n'osent pas désirer le bonheur. Mais disons qu'il y a une ouverture en nous pour plus grand que nous. Et pour une rencontre, et pour être reconnu, je pense. Je pense que personne ne peut se dire, moi ça me plaît bien que personne ne m'aime. Je crois que tout le monde a le désir, non seulement d'être heureux, mais d'être heureux du fait d'être reconnu et attendu par d'autres.